Alors que la calèche s'éloigne et qu'un dernier signe de main est échangé, Chopin reste pantois, là, sous la pluie fine. Tête basse, voilà qu'il prend le chemin de la cathédrale Saint-Étienne. Dans l'immense édifice religieux, il est bien seul face à lui-même. L'autel semble le toiser d'un air mesquin. Le virtuose angoisse. Il pense à Titus, à son père, mais surtout, Constance l'obsède encore. Va-t-elle survivre à ce soulèvement aux allures de révolution? Et si les terribles Cosaques envahissent Varsovie? Que feront-ils d'elle? Pour agir, il est trop tard. Chopin est condamné à se morfondre. Alors, dans le silence de la cathédrale, il décide de composer. Dans l'obscurité et la torpeur de la nuit, naît le scherzo en si mineur, opus 20. Une ode à l'angoisse et à l'impuissance. En Pologne, le brasier s'est allumé. L'incendie ne va pas tarder à se propager. Commence avec le lieutenant Piotr Wissotsky, qui agrège autour de lui des partisans indépendantistes et anti-russes. Son succès, de plus en plus notable, s'explique par la nouvelle politique mise en place par le tsar, mais aussi par la détestation généralisée inspirée chez les Polonais par le grand-duc Constantin. Le frère d'Alexandre Ier, qui commande l'armée polonaise, voudrait en faire un modèle de régularité et de discipline à la prussienne. Mais une partie des officiers et des encadrants locaux refusent de se plier à ce credo. La mise en alerte de l'armée, en réaction aux événements révolutionnaires qui se passent ailleurs en Europe, est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Le soir du 29 novembre 1830, la grogne éclate. Piotr Wissotsky mène un groupe de 24 élèves aspirants jusqu'au pied du palais du Belvédère. L'un des bâtiments les plus célèbres de Varsovie est le lieu de résidence de Constantin. L'assaut est donné. C'est le point de départ de l'insurrection. Un général, Hauck, est tué après avoir refusé de joindre la lutte. Il est vice-ministre de la guerre et il était l'un des militaires les plus importants de l'ancienne République des Deux Nations et du duché de Varsovie. Il meurt sous les balles des insurgés, ses décorations russes arrachées. Le message est clair. Constantin, lui, est attaqué par la bande de Piotr Wissotsky. Il manque de peu de se faire attraper. Il s'échappe et abandonne la ville. L'arsenal est pris par les insurgés. Plus de 30 000 fusils sont distribués à la population. La cité séculaire est prise sans coup férir. Pour autant, les hauts gradés de l'armée polonaise décident de ne pas soutenir le mouvement. Aucun général ne trahit son allégeance à la Russie. C'est un coup dur pour Wissotsky et les siens qui décident de s'appuyer sur les politiques les plus radicaux et anti-russes. En réaction, un gouvernement provisoire voit le jour début décembre. Il est composé notamment du prince Lubetsky, un noble hostile au soulèvement. Il s'entoure de personnalités civiles, politiques et militaires qui refusent l'insurrection. Leur gouvernement est donc le moyen de maintenir l'ordre. Le 12 décembre, le prince part à Saint-Pétersbourg. Son but, réduire la colère du tsar et obtenir les garanties que les acquis de 1815 seront conservés pour la Pologne. Refus net de Nicolas Ier. Ce sera la reddition des révolutionnaires ou l'intervention de l'armée russe. Lubetsky sait que cette option serait catastrophique pour le devenir de la Pologne. L'opposant aux insurgés tente de faire intervenir l'armée polonaise contre ceux qui se sont rebellés. Mais la chambre parlementaire, la Diète, proclame l'insurrection nationale. Plus encore, le 25 janvier 1831, Nicolas Ier, pourtant roi de Pologne, est destitué par les parlementaires. Cette fois, c'est clair. La Pologne vient de déclarer la guerre à la Russie. Le 5 février 1832, salle Pleyel, Paris. La ville lumière a un nouveau souverain depuis quelques mois. Louis-Philippe Ier, roi des Français, a succédé aux Bourbons après une nouvelle révolution. Mais un autre phénomène d'ampleur est en train de faire parler la capitale. L'émigration polonaise. Adam Mickiewicz vient d'arriver en France. Il est l'une des figures de proue de ce qu'on appelle déjà la grande émigration. La Pologne vient de connaître des affres inouïes. La conséquence ne s'est pas fait attendre. Une bonne partie des élites du pays a fait le choix de partir. Adam Mickiewicz est un poète à la notoriété énorme. Il a donc été accueilli à Paris comme un pape par les Polonais qui l'ont précédé. Son ardeur patriotique, son engagement, tout cela l'a suivi. Ce soir, le littéraire écoute avec passion un concert donné par l'un de ses compatriotes. C'est le premier du jeune homme en France. Au piano, le musicien sur scène est en train de transcender l'assistance. Son nom, Frédéric Chopin. Après bien des soucis à Vienne, où il n'a jamais pu s'intégrer, le virtuose a choisi la patrie de son père pour rebondir, la France. Et bien lui en a pris. Ce soir, Chopin donne son tout premier show dans une salle comble qui le connaît encore mal. Dès les premières notes, l'assistance est subjuguée. Ce qu'il fait avec son piano, c'est de la poésie. Mickiewicz s'en persuade. Leurs arts s'agrègent et se complètent. Tous deux donnent corps à la souffrance. À écouter Chopin, à lire le poète, l'exil devient une nouvelle patrie. Mais ce nouveau départ des classes supérieures et littéraires s'est fait au détriment de l'horreur. Et les malheureux qui sont restés en paieront longtemps les conséquences funestes. Au début du mois de février 1831, une armée russe considérable se met en route, en direction de Varsovie. En face, les Polonais se sont préparés à la guerre, mais la lutte est inégale. Ils se battent à 1 contre 2. Les Russes sont plus de 120 000 répartis en 11 colonnes. Cet avantage n'est pas exploité immédiatement par les soldats du tsar, qui se prennent les pieds dans le tapis, à Stoczek notamment. Le début de la campagne n'est guère positif pour les Russes. Mais leur supériorité numérique écrasante est telle qu'il n'est guère possible pour les Polonais de les contenir. Le 25 février, à Grokow, tout près de Varsovie, les deux armées s'affrontent dans un choc énorme. C'est la plus grande bataille en Europe depuis la sanglante Waterloo. Sur la rive droite de la Vistule, les pertes des deux côtés sont exponentielles. Les Russes perdent près de 10 000 hommes et stoppent leur offensive vers la capitale du pays. La bataille, un match nul, pour le moins sanglant, permet aux Polonais de se regrouper et de résister. Mais le vent tourne, et le début d'année 1831 est plus favorable à l'ours tsariste. Face au recul de l'armée, de nouvelles émeutes éclatent à Varsovie. Malgré une résistance farouche et l'attente d'un appui de la France de Louis-Philippe, qui ne viendra jamais, la ville capitule le 8 septembre. Frédéric Chopin, alors en Allemagne, écrit dans son journal ces quelques mots. « Oh Dieu, existes-tu ? Oui, tu existes, et ne nous venge pas. N'y a-t-il pas encore assez de crimes moscovites, ou bien es-tu moscovite toi-même ? Dieu, mon Dieu, ébranle la terre, qu'elle dévore les hommes de ce siècle, que les tortures les plus cruelles tourmentent les Français, qui ne nous ont pas secourus. » La Pologne doit se plier aux exigences russes. C'est aussi le début de ce qu'on appelle la grande émigration. Un processus qui va conduire près de 10 000 Polonais, artistes, littéraires, politiques, à partir vers l'Ouest. La connexion vers la France est alors la plus vive. Mais la solidarité française n'est pas réellement sincère. Louis-Philippe, qui a refusé d'armer ses soldats pour la cause polonaise, se méfie de ces nouveaux venus. Il craint certainement qu'il puisse distiller en France des pensées révolutionnaires. Un contrôle strict leur est imposé. Au cœur de la capitale française, un réseau d'intellectuels polonais se développe, afin de maintenir sous perfusion une identité nationale mise à mal par l'échec de l'insurrection face aux Russes. Comme à son habitude, le tsar Nicolas Ier se montre impitoyable. L'armée polonaise est dissoute et il est dorénavant interdit de transmettre la langue nationale aux générations d'écoliers. Pire, la constitution de 1815, chérie et protégée par les instances politiques de Pologne, est purement et simplement supprimée. Varsovie perd ainsi toute marge de liberté, toute identité. Il faudra attendre la Première Guerre mondiale et la disparition de l'Empire russe pour que la Pologne retrouve une indépendance. Mais les souffrances polonaises sont loin d'être terminées, alors que le territoire n'aura de cesse d'être pris en tenaille entre l'URSS et les nazis. Frédéric Chopin ne remettra jamais les pieds dans sa patrie natale. Sa coupe en argent pleine de terre, il la gardera toute sa vie, lui qui ne quittera plus la France. Il y trouvera la notoriété, l'inspiration et même l'amour. Son idylle avec une certaine George Sand notamment est restée particulièrement célèbre. Il n'empêche, la mélancolie et la nostalgie de sa patrie d'origine n'auront de cesse de le tourmenter. Une souffrance qui se transformera en sublime production artistique. Après sa mort et selon ses dernières volontés, son cœur sera transporté à Varsovie. Depuis lors, Chopin est devenu un symbole. Il matérialise à lui seul ce que l'exil peut signifier de plus marquant. Il est un entre-deux terrible où le corps et l'âme sont séparés en deux lieux qui ne peuvent plus se rejoindre. La musique, ici comme ailleurs, se transforme en refuge. Elle permet de penser en quelque sorte les souffrances d'une Pologne sans cesse victime de la grande histoire.